8h27 minutes, on y va avec l'invité de la rédaction en direct ce matin dans 6-9 la matinale avec Souil Alachmi qui reçoit donc aujourd'hui Monsieur Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. Madame, Monsieur, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Monsieur Mohamed Talbi, bonjour.
Bonjour.
Alors que se passe-t-il Monsieur Talbi, dans nos villes et nos wilayas, quasiment à chaque distribution de logements ou de lots de terrain pour l'emploi, il y a un vent de mécontentement suivi de protestations. La dernière en date, les événements douloureux de Tougourt. Alors que se passe-t-il aujourd'hui?
C'est vrai, c'est des événements malheureux qu'on aurait pu éviter. Dommage que parfois ils sont suivis d'incidents dramatiques. Mais je peux vous dire qu'un diagnostic a été fait sur ce qui ne va pas au niveau local. D'abord au plan du fonctionnement du service public. Donc un constat de la situation, un constat détaillé, précis, concis, objectif, donc de toutes les carences qui existent ça et là, et donc un train de mesures prises pour redresser la situation avec le concours de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est autorités administratives, élus et citoyens. Donc il est vrai qu'on a assisté ces derniers temps à quelques événements récurrents à l'occasion des distributions de logements, à l'occasion de branchement du bénéfice de certaines prestations, raccordement en gaz, raccordement en eau potable, route, etc. Et comme c'est le cas à Tougourt, donc un problème de distribution de l'eau de terrain qui n'aurait pas dû se poser de cette façon.
Alors, on aurait pu les éviter. Comment les éviter, puisque vous avez aujourd'hui certains qui dénoncent un manque de transparence, une opacité dans la gestion des affaires locales, de ces dossiers par les responsables locaux. On parle aussi de passe-droit, de favoritisme. Vous parlez d'un état des lieux qui est en cours actuellement. Pour pouvoir agir, est-ce qu'on connaît où réside le problème?
L'état des lieux est fait. L'état des lieux est là. Des mesures sont engagées, déjà.
Quelles mesures,
comme
monsieur
Talbi? Tout le monde peut le constater que maintenant, les autorités, y compris les élus, reçoivent les citoyens pratiquement toute la semaine. Toute la semaine. Donc, les portes sont ouvertes au niveau des administrations. Il est vrai qu'il existe encore quelques réticences qu'il va falloir combattre. Et des équipes du ministère de l'Intérieur sont en train de sillonner le pays depuis un certain temps pour relever tous les écarts de conduite contraires aux instructions qui ont été données pour rapprocher le citoyen de son administration. Si vous avez bien suivi les images sur Tougourt, le citoyen ne demande qu'à être écouté. C'est un citoyen qui demande à être convaincu. Donc il y a des opérations qui doivent absolument être menées dans la transparence. Quand il y a transparence, il n'y a aucun problème par la suite. Donc quand c'est le cas dans plusieurs localités où il y a eu des opérations de distribution de logements qui n'ont suscité aucune contestation.
Alors vous parlez aujourd'hui, insistez sur la question de la démocratie participative. Est-elle une réalité ou un leurre, M. Talbi?
Ce n'est jamais un leurre puisque elle a fait ses preuves dans beaucoup de pays et chez nous traditionnellement dans certaines régions du pays beaucoup d'opérations ont été menées avec le concours du citoyen ou prises en charge directement par le citoyen. Le citoyen parfois ne demande pas grand chose hein, pour l'ouverture d'une piste. Il demande à ce que la commune mette à sa disposition une petite citerne, un tracteur et le reste c'est le citoyen qui le prend en charge. Donc certains élus considèrent effectivement, parce que nous avons ouvert des ateliers pour la réflexion autour de ce thème, et certains élus réticents ont peur que cette démocratie participative leur enlève quelques prérogatives. Ils pensent que c'est antinomique alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils pensent que
pourtant elle existe dans le code communal.
C'est de la co-décision ou de la co-gestion, ce n'est pas du tout cela. Le code communal y a consacré plusieurs articles. Et donc, par rapport à l'expérience que nous avons déjà, parce que nous avons des traditions ancestrales, maintenant il s'agit de mettre en œuvre des dispositions avec une touche moderne à la chose. Il y a différents canaux pour faire participer le citoyen. Je peux vous citer par exemple l'élaboration du budget communal. Très peu de gens savent comment est fait un budget communal. Je parle des gens au niveau de leur localité. L'Assemblée pourrait, puisque le code le permet, de faire appel aux citoyens, d'expliquer quelles sont les ressources de la commune, quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses, quelles sont les opérations qui sont prévues pour prendre en charge l'électricité, le chauffage dans les classes primaires, le raccordement en eau potable, l'assainissement de quelques tronçons, etc.
Mais la formation que vous initiez en direction des élus en ce moment est-elle aujourd'hui suffisante ? Et faut-il mettre tous les torts sur le dos des élus aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont seuls responsables de cette situation ? Ou il y a d'autres aussi blocages qui résident au niveau de la bureaucratisation de notre administration ?
Il ne faut jamais blâmer les élus. On n'a jamais dit que c'était tout ce qui se passe et relève de la responsabilité directe ou exclusive des élus. Ce n'est pas ça du tout. Nous avons constaté que l'élu adhère à cette démarche donc de formation, un déficit en matière de gestion, de prise en charge du contentieux, de la gestion des ressources humaines, de gestion des marchés publics. Tout cela a fait l'objet donc d'une formation accélérée et les élus en demandent. Hein. Nous n'allons pas nous arrêter là. Donc d'autres cycles sont prévus, y compris avec des partenaires étrangers. Donc des élus iront voir dans certains pays développés et s'imprégner un peu des méthodes de gestion dans ces pays-là. Des experts de ces pays viendront chez nous. Donc tout est prévu à partir des prochaines semaines pour que cette formation prenne véritablement et ne concerne pas les élus. Elle concerne également tout l'encadrement des communes et des wilayas.
Alors aujourd'hui aussi, vous avez parallèlement une réalité. Certains APC sont totalement bloqués, M. Talbi.
Il n'y en a pas beaucoup par rapport au passé. Elles sont de l'ordre de 17, elles sont dans 13 wilayas, donc depuis le début du mandat 2012. Et ces APC bloqués, en fait, il s'agit plus de désaccords et de conflits entre les membres, entre soit le président d'APC et le reste de sa troupe, donc certains élus, à propos donc de la volonté du président d'APC de prendre seul les décisions. Donc les autres ne sont pas d'accord et c'est normal. Et dans d'autres cas, c'est des conflits autour donc de la désignation de l'exécutif, donc des vice-présidents, etc.
Et vous intervenez pour régler ces problèmes.
Et donc il y a d'abord une première étape de rapprochement des uns et des autres, donc de dialogue, de concertation, qui sont menées par les autorités locales. Et quand il n'y a vraiment aucune issue à ce dialogue, ça ne débouche sur rien du tout, les gens campent sur leur position, le code communal permet au Wali effectivement de mettre en œuvre une disposition qui lui permet de se substituer donc à l'organe délibérant en désignant soit le chef de daïra pour prendre en charge la gestion courante de la commune ou un administrateur ou un secrétaire général.
Alors justement, on parle beaucoup de cette question de démocratie participative, impliquer le citoyen dans la gestion de sa cité. On parle aussi de la modernisation de l'administration, notamment en ce qui concerne le volet état civil. Est-ce qu'on est en train de prendre en charge toutes les préoccupations qui concernent en premier lieu les citoyens, parce que le premier vis-à-vis, c'est la commune.
Je disais tout au début qu'un constat avait été fait pour voir quelles sont les voies et moyens pour redresser la situation. On a dit que la modernisation était la préoccupation numéro une, il fallait foncer. Oui, de l'état civil et de pas mal d'autres services aussi. L'état civil est le secteur qui reçoit le plus de citoyens. Tout le monde va vers l'état civil. Et avec la mise en place donc du registre national d'état civil qui connecte toutes les communes et toutes les antennes administratives. Vous savez que dans les grands quartiers, il y a une antenne qui est branchée directement par fibre optique au siège de la commune, et qu'à partir de cette antenne-là, vous pouvez avoir vos papiers d'état civil dans la seconde qui suit. Donc, en tout cas, c'est une réalité maintenant. Le citoyen est convaincu que nous devons encore aller faire plus d'efforts. Nous l'avons fait pour les actes de naissance. Nous le faisons en ce moment même pour les mariages et les décès.
Les cartes grises également, le permis de conduire.
Donc les cartes grises est un registre maintenant qui est centralisé et qui vous permet de vous faire délivrer votre carte grise à partir de n'importe quelle daïra du pays.
Alors pour rapprocher aussi le citoyen de l'administration, vous avez créé pas moins de 3500 annexes administratives.
3500 annexes qui sont branchées au niveau au siège de la commune, ce qui permet avec l'informatique de vous faire délivrer votre papier au niveau de votre quartier, pas la peine de vous déplacer au siège de votre commune. Vous pouvez d'ailleurs si vous êtes né dans n'importe quel point du pays, vous pouvez l'avoir dans votre commune de résidence et c'est ça je pense la révolution qui a été réalisé. Nous en sommes très fiers et très contents. Et nous allons encore, avec le numéro d'identification nationale, avec la mise en place de la carte nationale d'identité biométrique, qui est le dossier est maintenant maturé, il est prêt, nous allons, le citoyen n'aura plus à aller se faire délivrer tel ou tel papier. Sa petite carte suffit et elle remplace tout.
Alors, toutes ces questions, nous les aborderons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Monsieur Mohamed Talbi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 minutes.
Il est 8h41, la suite de l'invité de la rédaction, avec cette deuxième partie avec l'invité Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, avec vous, Souhaïla Lachmi.
Alors, beaucoup de questions pour cette deuxième partie, monsieur Mohamed Talbi. Moi, je voudrais revenir un peu sur les documents administratifs. Vous dites que la carte grise, ça y est, c'est fini, ça sera automatique à l'avenir, c'est-à-dire... Elle est délivrée partout.
C'est déjà fait.
Et rapide.
Oui, depuis quelques mois déjà, le système fonctionne. Et vous pouvez constater de vous-même, vous pouvez avoir votre carte grise à partir de n'importe quelle daïra du territoire national. Monsieur le ministre d'État avait donné des instructions donc, pour aller plus vite dans la modernisation parce que il considère que c'est le seul moyen donc de rattraper le retard, donc mettre le paquet sur toutes ces infrastructures qui ne répondent plus aux besoins. Vous avez des communes qui continuent à fonctionner dans des sièges qui rappellent l'époque coloniale. Donc de nouveaux sièges ont été réalisés. Donc un grand coup de fouet pour terminer, achever ces sièges, les équiper, donner le maximum de confort aux citoyens, le recevoir, répondre à ses doléances, le répondre à son courrier, le prendre au téléphone. Tout cela doit être mené donc parallèlement avec toutes les autres mesures que j'avais évoquées tout à l'heure.
Mais la carte nationale biométrique, c'est pour quand, monsieur Talbi? Quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce carton vert qu'on trimballe dans nos sacs et nos chemises?
Normalement, on devait commencer par la carte nationale d'identité biométrique. Mais avec les exigences de l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui a recommandé à l'ensemble des pays de se doter du passeport biométrique, donc le projet avait été différé. Donc c'était l'unique raison. Et la réalisation du passeport biométrique nous a permis de mieux comprendre le processus, de mieux le préparer, pour avoir une carte qui réponde à toutes les normes de sécurité et qui n'aura rien à envier aux cartes d'identité qui sont en circulation dans les autres pays développés.
Pourquoi ?
C'est une carte qui va comprendre deux puces. Donc double puce, une puce pour l'identité de la personne, donc ses empreintes, et une autre puce qui va regrouper tous les autres éléments d'information comme la nationalité, le groupe sanguin, le numéro d'identification, etc., qui permettra aux citoyens de ne plus s'adresser à n'importe quelle autre administration. La carte, avec ses puces, suffit à ne plus avoir d'autres papiers. Vous aurez juste une petite carte en polycarbonate que vous aurez dans votre poche ou dans votre porte-monnaie et ça vous suffira.
La question, c'est pour quand, M. Talbi?
Nous sommes en train, donc, nous avons rassemblé tous les avis des spécialistes, y compris donc de services de sécurité, pour avoir leur idée, pour avoir leur vision, parce que c'est une carte hautement sécurisée. Et dès que le projet est validé par le groupe de travail qui va se réunir cette semaine, on pourra lancer les consultations pour l'acquisition des équipements nécessaires à sa mise en route.
Alors disons que ce sera courant 2015.
Que nous avons un deuxième centre biométrique à La Roite qui est en voie d'achèvement, qui sera totalement équipé de la même façon que celui qui existe à Alger, Al-Hamiz. Et ce centre-là, donc décentralisé, ce qu'on appelle un backup, un deuxième centre, qui va nous aider à doubler nos capacités de production du passeport biométrique et qui va se charger également donc, de la production de cette carte d'identité.
Vous en produisez actuellement 200 000 passeports jour.
Non, 20 000.
20 000, excusez-moi, 20 000, oui.
Si on aurait bien aimé.
J'oublie, j'ai pas fait attention au point entre les deux zéros. Donc 20 000 passeports jour.
Oui. Et nous passerons à 25 000 dans très peu de temps.
Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce rush pour l'acquisition du passeport biométrique? Est-ce que c'était parce qu'on avait eu une période un peu difficile? C'était le pèlerinage, mais ça se poursuit. Est-ce que c'est les 6 000 dinars de timbres qui seront versés à partir du 1er janvier qui font peur aux Algériens?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a bien entendu cette histoire de 6 000 dinars. On a eu 450 personnes le même jour à Belmandres. Nous avons eu quelques centaines aussi à Oran, à Constantine, donc dans les grandes villes. Mais il y a aussi le comportement du citoyen lui-même qui attend la dernière minute, l'approche des vacances, un besoin pressant de se déplacer à l'étranger pour venir se faire délivrer le passeport.
Combien vous en avez délivré en cette période? Parce que avec. Le rush, quand on voit au niveau des communes, il est impressionnant, ou d'Aïra plutôt pour le passeport.
Oui, mais nous disons que de toute manière, nous n'avons pas d'autre choix que d'augmenter les capacités de production. Je vous disais qu'on allait passer à 25 000 par jour. Donc, et avec l'ouverture de centres de la Rouate, le problème ne se pose pas. Et ce qui motive aussi cette demande, c'est certainement l'approche de l'échéance internationale du 24 novembre 2015. Les gens ont peur de se retrouver sans passeport biométrique à l'approche de cette date.
Alors, mais les délais aussi de confection des passeports est réduit puisqu'il n'y a plus la fiche de police, il n'y a plus l'enquête de police, elle est supprimée aujourd'hui.
Oui, absolument. Donc, cette enquête ne se justifie plus, elle n'est plus en vigueur et cela a rassuré énormément les citoyens. C'est une très bonne chose. On essaiera d'alléger encore plus d'autres documents. Je vous disais qu'on avait fait le diagnostic pour supprimer un tas d'autres documents tels que ceux d'état civil qui sont passés de 36 à 11 documents. Et nous allons avec les autres secteurs, parce qu'il y a énormément d'autres secteurs qui sont concernés. Il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur avec ses daïras, ses wilayas et les communes. Il y a aussi d'autres secteurs qui devraient suivre pour ne plus exiger du citoyen, parce que la commune, en fin de compte, est le réceptacle, le déversoir de toutes les demandes qui sont exigées du citoyen. Je vous cite à titre d'exemple donc la suppression de la légalisation.
J'allais aborder cette question. Fini, on légalisera plus les documents à l'avenir, puisque le projet a été présenté au niveau du Parlement par le ministre de l'Intérieur.
Non, vous savez, il ne s'agit pas de tous les documents. Il s'agit des documents qui sont délivrés par des administrations publiques, organismes publics, institutions publiques. Il est aberrant que vous ayez par exemple un diplôme délivré par une université et que si vous devez aller vers une autre université pour demander un poste d'emploi ou pour faire une post-graduation, qu'on vous demande de légaliser votre diplôme alors qu'il est délivré par l'administration qui vous l'a délivré.
Alors, autre question, préoccupation pour un peu essayer d'aller vers une gestion beaucoup plus rationnelle au niveau local. Il y a aussi cette question qui est souvent soulevée par les élus qui parlent un peu de richesse ou de pauvreté de certaines APC. Cela dépend. Certaines sont quasiment dépourvues de moyens. Est-ce que cette question de fiscalité locale est revue aujourd'hui, Monsieur Talbi?
Oui,
pour assurer cette équité, équilibre régional, que toutes les villes se développent en même temps en Algérie.
C'est vrai, mais ce problème ne concerne pas uniquement, exclusivement la fiscalité. Il y a tous ces projets de proximité qu'il va falloir prendre en charge. Donc, je vous citerai à titre d'exemple les plans communaux de développement qui sont des programmes extrêmement intéressants pour le citoyen parce qu'il s'agit de petites opérations qui concernent donc les écoles, qui concernent la route, l'éclairage, le revêtement de la chaussée, les nids de poules, les crevasses sur la chaussée qui font énormément de dégâts aux citoyens. toutes ces choses-là qui empoisonnent quotidiennement la vie du citoyen par rapport à l'eau potable, par rapport à l'assainissement, par rapport aux avaloirs, par rapport à tout cela, et que le ministère de l'Intérieur a réussi avec l'accord du gouvernement d'augmenter la cagnotte, de 62 milliards de dinars qui étaient initialement octroyés pour les communes, nous sommes passés à 100 milliards de dinars, soit 61% d'augmentation, ce qui fait le bonheur actuellement de nos communes.
Mais est-ce que vous serez très regardant sur la question de la gestion de ces deniers publics, puisque nous savons au niveau des communes que vous avez citées tout à l'heure, qui sont bloquées, les 17 à travers le territoire national, beaucoup d'élus sont poursuivis en justice?
Donc d'abord, heureusement qu'il n'y a que 17, mais pour nous, ça pose problème. Parce qu'on parle de démocratie participative et il faudrait que le citoyen ait confiance avant tout en ses élus. Or, si je dois répondre à votre question concernant les élus suspendus, le chiffre est important. Bon, vous me direz, moi je dirais que par rapport aux 29 000 élus existants, 220, je ne sais pas exactement combien cela représente.
Ils sont suspendus, 220.
220 suspendus, dont 45 présidents d'APC. Donc parmi les 45, parmi les 220 qui ont été suspendus, il y a les 45 présidents suspendus, 43 ont été réintégrés parce qu'ils ont bénéficié de non-lieu où la justice les a blanchis. Et je dois dire qu'il y a eu quand même 18 exclusions pour des jugements définitifs, des arrêts, des juridictions définitives. La justice a tranché et ces élus ont été remplacés.
Alors, dernière question et très rapidement, M. Talbi. Ce qui s'est produit à Tougourt, ce qui s'est produit à Béjaïa, ce qui s'est produit aussi au niveau de l'Algérois, Bebelouet, pour la distribution de logements, est-ce qu'on aurait pu l'éviter avant même, puisque le ministre de l'Intérieur, lui, a réglé le problème? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter déjà en discutant, en informant, en consacrant plus de transparence au niveau local?
Tous les drames, toutes les situations négatives peuvent être évitées si elles sont prises en charge à temps.
C'est votre volonté aujourd'hui, M. Talbi, au niveau central?
Agir au niveau de l'anticipation, il faut anticiper sur les problèmes. Ouvrir les canaux de dialogue parfois qui n'existent pas ou qui sont rompus. Il y a des passerelles qui n'existent pas entre les citoyens et ses élus ou les représentants de l'État au niveau local.
Monsieur Mohamed Talbi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.
C'est moi, bonne journée.
Également.